cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 9 décembre 1992.
Nous allons continuer cette recherche sur l'être en acte. Découvrir ce que représente la fin d'Élos, la fin de ce qui est en tant qu'il est. Vous voyez, il y a là quelque chose de très particulier dans le jugement d'existence, le point de départ de la philosophie première, ce qui fonde toute la philosophie réaliste, ce dévoilement que fait le jugement d'existence par rapport à toutes nos expériences qui impliquent le contact avec la réalité physique par les sens externes. Et cette découverte par l'induction, comme dit Aristote, synthétique et analogique, caractérise cette démarche inductive synthétique et analogique, c'est-à-dire il montre que cette induction qui nous permet de saisir ce qu'il y a d'ultime dans l'être, ce qu'il y a de parfaitement actué dans l'être, cette découverte de l'être en acte rejoint, ou plus exactement approfondit, ce jugement d'existence. Il y a là quelque chose d'important à comprendre, ce passage de ceci est à l'être en acte. L'être en acte qui se distingue tout de suite de l'être en puissance. Dans le jugement, ceci est, il y a quelque chose de complexe et en même temps de simple. Autrement dit, dans le jugement, ceci est impliqué à la fois quelque chose d'ultime et quelque chose de fondamental. Ceci, c'est fondamental et c'est ultime. Et l'intelligence, par la voie inductive, va séparer tout ce qu'il y a de potentiel, de complexe, va séparer ce qui est en acte de ce complexe pour saisir la fin, le principe final de ce qui est. Et je crois que c'est là où l'intelligence s'actuant par la fin de ce qui est l'être en acte, l'intelligence découvre en elle-même ce qu'elle a de plus profond. C'est la saisie de l'être qui dévoile à l'intelligence ce qu'elle est. science est tabula rasa. C'est-à-dire que l'intelligence est en elle-même notre intelligence. C'est pas l'intelligence en soi, mais c'est notre intelligence. Et tabula rasa. C'est-à-dire qu'au point de départ, notre intelligence est une pure capacité. Une pure capacité qui, en tant que pure capacité, ne peut pas être intelligible pour elle-même. La capacité impliquant une potentialité implique quelque chose d'opaque, d'inintelligible, quelque chose qui peut être actué, mais qui ne l'est pas. C'est, je crois, quelque chose de très important à comprendre, cela, parce que ça fait saisir pourquoi il y a si facilement de déviations dans notre connaissance intellectuelle, dans le cheminement de notre connaissance intellectuelle. Si notre intelligence était en acte dès le point de départ, il n'y aurait pas de déviation. Mais notre intelligence, au point de départ, tabula rasa. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de déterminé en elle. Elle est une pure capacité. Et qu'est-ce qui actue l'intelligence ? Qui l'actue d'une manière immédiate ? Ce n'est pas ce qui apparaît, qui est le devenir, qui est l'apparence, qui est le visible. C'est ce qui est, c'est l'être. Et l'intelligence est actuée en premier lieu par le jugement d'existence. L'intelligence s'actue en disant ceci est. Et elle découvre par ce qui est, ceci est, elle découvre quelque chose qui est son bien. Mais en disant ceci est, si l'intelligence s'actue, elle reste encore très en puissance. C'est au moment où, grâce à l'induction synthétique et analogique, c'est-à-dire une induction qui met en œuvre tout ce qui est avant la découverte de la philosophie première, tout ce qui précède la philosophie première, tout ce que l'intelligence découvre à travers la philosophie de l'art, la philosophie de l'activité artistique, la philosophie de l'activité morale, l'amour d'amitié, le point de vue politique. Et le point de départ de cette philosophie spéculative, la philosophie de la nature et la philosophie du vivant, et la découverte de la substance, tout ça est mis en œuvre. Donc vous voyez, il y a 6 points de départ. Aristote en donne 5. Je crois qu'il faut en mettre 6. Il y a 6 points de départ de cette induction. Et c'est ça qui est si extraordinaire dans cette induction de l'acte. On se sert de tout ce qui est antérieur pour dévoiler, découvrir ce qu'il y a de plus actuel dans la réalité que j'expérimente. Et la réalité que j'expérimente, la plus actuelle, c'est moi. C'est l'homme. Et l'homme Celui qui est le plus proche de moi, c'est moi-même. C'est évident que je connais métaphysiquement toutes les réalités qui sont des hommes. Mais j'ai quand même une situation privilégiée. Quand j'essaie de comprendre ce qui en moi est le plus actuel, tous les jours, je fais cette expérience du passage de celui qui dort et qui se réveille. Et chaque jour, cette expérience est qualitativement différente. Vous êtes parmi aujourd'hui comme hier. Vous mettez du temps à le comprendre. Vous êtes parfaitement éveillé. Tous les jours, vous faites l'expérience dans l'ordre de l'amitié, de ce que c'est que le choix d'un ami. De ce que c'est que le travail. Tous les jours, vous faites l'expérience de ce que représente le fait de voir, de toucher, d'entendre. On ne fait pas attention, parce que c'est tellement normal. Mais le jour où vous commencez à ne plus entendre, à ne plus voir, voyez l'obstacle qui empêche l'actuation. Vous vous servez de toutes ces expériences, même l'expérience, voyez, de la substance, la découverte de la substance, la découverte de ce principe, de cette cause, selon la forme de ce qui est. On peut saisir l'acte avant la substance, mais on ne saisit pas l'acte dans toute son acuité si on n'a pas saisi la substance. Parce que la substance me fait comprendre quelque chose de très radical dans la réalité. Me fait comprendre la source du ceci. Ceci est de toute réalité existante qui a son autonomie, qui a sa détermination. Et je m'aperçois que ce n'est pas tout l'être. Je ne peux pas ramener l'être à la substance. Il y a quelque chose de plus dans la réalité existante, dans moi-même existant, que ma propre substance. Alors qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de plus que je constate dans l'expérience très simple? Quand je dors, c'est moi. Ma substance n'est pas ce qui me fait réveiller. Parce que ma substance est présente quand je dors. Quand quelqu'un dort, vous dites c'est Pierre qui dort. N'avez pas lui donné un nouveau nom. Oh, il dort, ne réveille pas. Il dort. Et puis, Pierre va se réveiller. Et c'est encore Pierre. Et c'est tout autre quand il se réveille. C'est tout à fait différent. Au point de vue de son être, de ce qu'il est. Quand vous allez voir quelqu'un, et puis que vous voyez qu'il dort, quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, et qui dort, puis on vous dit, laissez-le dormir, puis vous n'avez pas le temps d'attendre qu'il se réveille, vous partez. Vous dites, j'ai rencontré telle personne, le président de la République, parce qu'il dort comme toutes les autres personnes, mais il dormait. Alors, j'ai vu son être, mais je ne l'ai pas vu pleinement. Vous voyez, comme si, curieux, cette expérience fondamentale. Alors, vous pouvez rester au niveau de la vie, c'est sûr, mais quand il se réveille, et le réveil du président de la République est le même que celui du troupier, métaphysiquement, c'est la même chose. Il y a un phénomène très particulier qui fait que, substantiellement, c'est la même personne. C'est tout autre. Allô, allô. Et autre, autre. Il est éveillé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce passage de celui qui dort et celui qui est éveillé? Alors, vous allez l'expliquer au point de vue de la vie, vous très bien. Et on va vous l'expliquer biologiquement. Comment ça se fait le réveil, la conscience qu'on prend de soi? Oui, on n'explique rien du tout. Parce que vous expliquez les éléments qui sont nécessaires pour qu'il y ait conscience. C'est matériel. Il y a quelque chose de très particulier au point de vue de son être, dans son être. Ce passage. Alors que c'est la même personne. Évidemment, quand il dort, il ne peut pas dire « je suis ». Jamais quelqu'un qui dort dit « je suis ». Ce serait inquiétant, du reste. « Je suis dormant ». Quand il dit « je suis dormant », il est éteint. Donc il ne dit pas « je suis ». Et quand il est éveillé, il peut dire « je suis ». Alors, qu'est-ce que ça représente au point de vue de l'être, cela ? Qu'est-ce que ça représente au point de vue de l'être, le passage de la capacité de voir et voir? Les scolastiques diront l'acte premier, l'acte second. C'est très joli du reste. Et c'est l'acte second qui explique l'acte premier. C'est pour ça que c'est une dénomination qui n'est pas très bonne, parce que normalement, c'est le premier qui explique le second. Et là, c'est l'inverse. C'est le second qui explique le premier. L'acte second, c'est la vision. Or, c'est la vision qui explique la capacité de voir. Alors, vous voyez, ce fait qu'il y a là quelque chose, l'exercice dans l'ordre de l'être, mais c'est pas l'exercice dans l'ordre de l'être, mais c'est quand même l'exercice dans l'ordre de l'être. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau. L'être en acte. Qui n'est pas l'être, la substance, qui est quelque chose d'ultime. L'être en acte, vous ne pouvez plus rien ajouter. Alors, l'être en acte prend ces six modalités différentes. Vous avez six modalités différentes de l'être en acte. Six modalités de l'être en acte données dans l'expérience. Il faut que votre intelligence distingue de l'expérience ceci est. L'être en acte distingue du ceci. L'intelligence saisit dans la réalité, c'est-à-dire en moi, ce qu'il y a d'ultime. Distingue de toutes les capacités dans l'ordre de l'être. En saisissant l'être en acte, s'actue. Et c'est l'intelligence qui, à ce moment-là, touche au point de vue de l'esprit son acte propre qui illumine tout le reste. Ayant saisi l'être en acte distinct de l'être en puissance. c'est mon exister. Mais mon exister, voyez, qui a deux modalités tout à fait différentes. Cette modalité d'être éveillé et la modalité d'être celui qui est capable d'être éveillé mais qui ne l'est pas. La saisie de l'être en acte dépasse ces deux modalités pour saisir au niveau de l'être ce qui est premier, ce qui est ultime, la fin. Et c'est l'exister. Il n'y a rien au-delà de l'exister. Mon exister. Je suis. Mon exister en acte. Et cette capacité que j'ai d'exister, qui est ma substance, mais pas ma substance comme principe, mais ma substance en tant qu'elle est capable d'exister. Et je fais une nouvelle distinction là, une distinction qui est très importante. Je vois qu'en moi, ma substance, qui n'est pas l'être en acte, de l'être en acte, je peux saisir dans ma substance en tant qu'elle est capable d'exister son essence. C'est là où je crois que, au plan métaphysique, on saisit ce qu'est l'essence, cette capacité d'exister. Là, il y a un problème philosophique très important et difficile à saisir dans le point de vue de la substance comme principe propre selon la forme de ce qui est. Assumant mon corps. c'est le comment de ce principe. Comment existe-t-il? Il existe de cette manière. Et par le point de vue de la matière et du corps qu'il assume, je vois que cette substance n'existe pas par elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est limitée. La matière est le corps qui fait que cette substance existe. Cette substance est limitée. Si elle est limitée dans son être, elle n'est plus acte. La limite est toujours le signe de la potentialité. Toute limite se fonde sur une potentialité. Et cette potentialité va être mise en pleine lumière lorsque je saisirai l'être en acte. L'être en acte comme principe propre selon la forme, selon la fin, pardon, selon la fin de ce qui est. Première thèse, tu te mises dans toute distinction des sens et d'exister. C'est une découverte qui est au thème de l'induction, mais qui n'est pas une conclusion. C'est la découverte de l'être en acte. Et la découverte de l'être en acte me fait immédiatement découvrir ce que c'est que l'être en puissance. Et l'être en puissance, au niveau de l'être en acte, c'est l'essence, sa capacité d'exister. Et je dois dire, non pas en tout être, mais toutes les expériences que j'ai de la réalité impliquent la distinction de l'essence et de l'exister. Voilà ce que je dois dire. Toutes les expériences que j'ai de la réalité physique impliquent la distinction réelle, c'est évident, de l'être en acte et de la capacité d'exister. De sorte que dans un jugement de sagesse, je dirais, dans toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et exister. J'espère que là, vous voyez comment, au plan métaphysique, cette fameuse thèse, la première, les 24 thèses thomistes. Il faut savoir ça, c'est au point de vue. C'est un patrimoine historique, mais qui n'est un peu pourri. Je vous amènerai les 24 thèses thomistes, hein, parce que c'est... Si bon, vous n'avez pas vu les 24 thèses thomistes, donc vous n'avez rien vu. Pour certains, tout le thomiste se ramène aux 24 thèses, qu'on apprend par cœur, et comme ça, on est docteur. Philosophie, voit du thomiste, et on ne sait rien, parce qu'on ne sait pas d'où ça tombe. Ça ne tombe pas du ciel, la distinction des sens et existence. Vous ne l'avez jamais vu. Il faut saisir l'être en acte pour saisir l'essence. Vous voyez ? Et je comprends que l'essence, c'est découvrir à partir de l'être en acte ce qui est en puissance dans la substance, dans sa réalisation concrète, dans le monde physique. Donc dans mon âme entend qu'elle existe, est en capacité d'exister. Oui. Et je distingue alors mon âme qui existe dans mon corps, pas mon âme en tant que principe selon la forme de ce qui est, mais mon âme en tant qu'elle existe dans mon corps, je découvre en elle cette capacité d'exister. Parce que mon âme est bien principe propre de mon exister, mais mon âme en tant qu'elle existe dans mon corps se distingue de son exister. Ah, c'est très subtil, hein. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est très important de saisir ces deux aspects. Première induction. Deuxième induction. Et saisir le lien qui existe entre les deux. Ce lien se fait au niveau de ceci est. Ceci est s'analyse métaphysiquement en substance et acte. Par l'être, je saisis le ceci est. Par l'être, je saisis l'ultime être en acte. Il y a deux grandes inductions. À partir du ceci est, à partir du je suis. La découverte de la substance, la découverte de l'acte. La découverte d'un principe fondamental, la découverte d'un principe ultime. Et je peux, à partir de la découverte de ce principe ultime, qui est d'abord l'essence, je peux saisir que cette substance n'est pas adéquate à l'être. Mon être ne se ramène pas à l'âme. Vous êtes d'accord? Autrement, si mon être se ramenait à l'âme, votre corps serait du non-être. Et mon corps serait du non-être. Voyez, si je disais à la manière de Spinoza que l'être c'est la substance, et quand j'ai saisi la substance, j'ai saisi l'être. Ah, pas du tout. Vous avez saisi un aspect de l'être, mais vous n'avez pas saisi tout l'être. Donc, si je ramène l'être à la substance et que je dis que la substance c'est l'être, ou l'être c'est la substance, c'est plus juste de dire ça, je dois donc dire que mon âme c'est mon être. Or, c'est pas tout à fait ce qui se passe, parce que j'existe moi, et dans mon je suis est impliqué mon âme et mon corps. Alors comment se fait-il que l'âme n'est pas tout mon être, et que mon âme informe mon corps, et que mon corps est informé substantiellement par mon âme, et donc que mon corps a le droit de citer, il a le droit d'exister? Comment expliquer ça? Là, il faut l'expliquer, il faut quand même essayer de comprendre que mon corps existe. Et je dois le comprendre d'autant plus que je sais qu'il y a une position philosophique, Platon, que mon corps, c'est du non-être. J'aime mon corps, mais il est du non-être. Alors si c'est du non-être, je ne peux pas l'aimer. Comment se fait-il que certains ont une répugnance à l'égard de leur corps, et qui veulent à tout prix que leur corps périsse, et qui commencent à ne plus manger? Il y a une maladie comme ça. Hein, c'est assez significatif. Il faut pouvoir expliquer ça métaphysiquement, qu'il peut y avoir cette maladie, cette opposition radicale à l'égard de son corps. Mon corps, je le hais. J'ai entendu ça récemment. Quelqu'un qui disait ça, mais avec force. Et c'est évident, c'est celui que... Je ne supporte pas mon corps. Je voudrais une âme séparée. C'est imaginatif, mais c'est quelquefois réel. J'ai quelqu'un, il saisit ça, comment ça se fait ça? Comment il peut y avoir ça? Et comment je peux intégrer mon corps dans mon âme sans confondre les deux, sans ramener mon âme à mon corps? C'est pas la solution. Ça, c'est la solution facile, c'est la solution rampante. Alors je ne vois plus que mon corps, je suis un sportif, et mon âme, plus rien du tout. Je suis le roi des animaux. Et il n'y a que mon corps qui m'intéresse. Et comment expliquer ça? Il y a là tout un problème métaphysique extrêmement important, et qui actuellement se fait jour, de façon très étonnante. Je crois que c'est les conséquences de l'idéalisme, ça. Les conséquences de l'idéalisme, c'est que mon corps est insupportable. Que mon corps me limite. Que je ne peux pas voyager autant que je le veux à cause de mon corps. Parce que je dois prendre des instruments qui prolongent mon corps. L'avion est un instrument qui prolonge mon corps. Et qui permet à mon corps d'être aérien. C'est un instrument, comme la fourchette prolonge ma main, l'avion prolonge mon corps et permet à mon corps de voyager assez rapidement. C'est le prolongement, un instrument qui prolonge mon corps. C'est curieux d'essayer de comprendre toute la distance entre mon corps vivant et l'âme. Quelle distance il y a. Mon exister implique mon âme et mon corps. Et donc, l'âme n'est qu'un principe. C'est un principe, c'est une source. Et ce n'est pas la réalité concrète. C'est le fruit d'une analyse. C'est-à-dire que je la découvre dans une analyse. Mais la réalité concrète est plus que mon âme. Et la réalité concrète, c'est que mon âme informe mon corps et fait que mon corps existe par mon âme. Alors comment ça se fait, ça? Ça me pose un problème, ça. Métaphysique. Et ce problème métaphysique, c'est justement la recherche. Qu'est-ce que c'est que l'acte? Quelle est la fin de mon être? Oui, je ne saisis pas l'acte à partir de l'âme. Je saisis l'acte à partir de la réalité concrète qui existe. Parce que mon âme est source d'exister, mais mon âme, je ne la saisis pas directement. Je la saisis comme un principe. Je reprends donc la réalité concrète. Et dans la réalité concrète, l'âme est présente, c'est sûr. Mais cette réalité concrète implique la matière, implique mon corps, implique la sensibilité. Et le corps existant me dévoile que mon âme n'est pas l'être. C'est mon corps qui dévoile ça. Puisque mon corps existe. Et l'existé de mon corps n'est pas l'existé de mon âme. Et donc l'âme n'est pas l'être. L'être, c'est, au niveau ultime, c'est l'être en acte, c'est l'exister. Mon âme n'est pas l'exister. Mon âme existe, mais mon âme n'est pas l'exister. Elle est un principe selon la forme de ce qui est. Elle n'est pas l'exister. Alors, l'exister qui est en acte, ce qui n'est pas l'exister. Et ce qui n'est pas l'exister, je le découvre à travers mon corps, qui n'est pas mon âme. Et mon âme existe dans mon corps. Et donc mon corps va dévoiler la potentialité de mon âme en tant qu'essence. Mon essence, ce n'est pas mon âme. Mon essence, c'est mon âme dans mon corps. Mon essence d'homme, c'est l'âme et le corps. C'est pas uniquement l'âme. Et donc, cette capacité d'exister en acte de l'âme et du corps. C'est donc dévoiler dans mon âme sa capacité d'exister. Et ce dévoilement se fait grâce au corps. Oui. Il faut arriver à distinguer ces deux inductions à partir de ce que je suis. Et en distinguant ces deux inductions, je montre la distance qui existe entre mon âme, qui est ma substance, et l'être que je suis. Et je découvre que mon être en acte, mon exister, en moi est capable d'exister. Et qu'est-ce qui est capable d'exister? C'est ma substance dans mon corps. Et mon corps manifeste la limite de mon âme. Et manifeste la capacité de mon âme d'exister. Donc, l'aspect de l'essence. Oui. Et vous comprenez, à ce moment-là, que ramener mon exister à mon âme, c'est du platonisme. C'est de l'idéalisme. Votre âme ne peut pas se séparer de votre corps. Et votre âme est source de détermination dans l'être. C'est bien évident. C'est grâce à mon âme que je ne suis pas un petit chien. C'est grâce à mon âme que je suis un homme. Mais c'est grâce à mon âme que je suis un homme. Mais je suis un homme en impliquant l'âme et le corps. Donc, cette première saisie de l'être en acte me montre tout de suite qu'il y a quelque chose de radical en moi. Mon essence d'homme, et que cette essence est actuée par mon exister. Donc, ayant saisi l'être en acte, je saisis tout de suite cette première modalité de l'être en acte, qui est mon exister. Et par mon exister, je saisis ma capacité d'exister, mon essence. Et je comprends que mon essence, c'est à la fois mon âme et mon corps. Votre essence d'homme implique le corps. Vous ne pouvez pas définir l'homme sans regarder le corps. C'est impossible. C'est donc là où j'ai la saisie métaphysique du corps. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la manière de récupérer la matière en métaphysique. J'ai vu qu'il n'y avait pas de cause propre selon la matière. Mais cependant, la matière est saisie comme quelque chose d'essentiel au point de vue de mon exister. Et c'est pas contradictoire. C'est l'essence, c'est mon âme et mon corps. C'est pas uniquement mon corps. Si l'essence était uniquement mon corps, il y aurait un principe propre selon la matière. Mais c'est mon âme et mon corps. Et c'est mon corps par mon âme. Et donc, le corps n'est pas un principe propre au plan métaphysique. Mais il est un co-principe. Il est un principe second. Mais un principe quand même, il est quelque chose d'essentiel. Et à sa manière, il est quelque chose de fondamental. Alors, par là, je comprends que mon corps me permet de comprendre ce qu'il y a d'essentiel en moi. Et si je ne regardais pas mon corps, je ne pourrais pas saisir mon essence d'homme. Voyez, ceci reste bien dans la lumière de Thomas d'Aquin. Ça, c'est nota bene pour ceux qui s'inquiètent. En disant, mais Thomas d'Aquin ne dit pas ça. Eh bien, je dis oui. Regardez attentivement comment Thomas d'Aquin précise ce qu'est l'essai. Actus essens. main précise laissée par l'acte, cela prouve que c'est l'acte qui me fait comprendre l'essai, et non pas l'essai qui me fait comprendre l'acte. Alors, en disant ça, je fais dégringoler tous les thomistes qui disent que la métaphysique de Thomas d'Aquin n'est pas celle d'Aristote. Il y en a beaucoup, hein. Maritain, Gilson, qui disent ça. Pour ne prendre que les deux, hein. Geiger aussi. Parce que c'est vrai, l'essai est une manière particulière de comprendre la lettre en acte. La manière substantielle, radicale et première. C'est vrai, c'est la première modalité de l'être en acte, c'est l'essai. Mais je ne peux pas identifier l'être en acte et l'essai. Je dois dire que l'essai est la première modalité de l'être en acte. Mais ce n'est pas l'être en acte. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Il vous dit tout simplement, regardez dans saint Thomas, essai, actus et sandi. Donc, si on définit l'essai, du moins si on précise ce qu'est l'essai en faisant appel à l'acte, ça prouve que l'acte est quelque chose de plus intelligible que l'essai. Si c'est quelque chose de plus intelligible, c'est donc quelque chose de premier par rapport à l'essai. Alors je pourrais dire, vous voyez, que l'acte est ratio et l'essai est modus. L'être en acte est quelque chose que je saisis avant l'essai. Évidemment, dans le jugement d'existence, quand je dis ceci est, je saisis l'acte, je ne saisis pas l'essence. Je ne saisis l'essence qu'à partir de l'être en acte, comme fin. Mais il y a là, au point de vue, je dirais au point de vue, connaissance de saint Thomas et rapport de saint Thomas et d'Aristote, quelque chose de capital. Parce que ça a été très développé chez les derniers thomistes. Et pour moi, c'est la pierre de touche. Est-ce que, pour voir si on a compris Thomas d'Aquin, on l'a pas compris, que Thomas d'Aquin, en tant que théologien, mettre l'essai en pleine lumière, c'est évident. Parce que, en tant que théologien, le problème de la création est tout de suite présent. Le théologien regarde l'homme comme une créature. Si le théologien regarde l'homme comme une créature, il voit que l'homme a un essai participé. Et donc, s'il regarde l'homme comme un essai participé, l'essai est quelque chose de premier. Et on a l'essai participé et l'essai subsistant. Et c'est quelque chose de premier pour le théologien. Parce que le théologien utilise la métaphysique pour mieux comprendre la révélation. Et la révélation première, c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre. La théologie saisit le comment et non pas ce qui est. Alors, je vois tout de suite que le point de vue de l'essai, c'est le comment. Et l'acte, c'est le quid, ce qui est. c'est un mode, c'est-à-dire le comment. Un comment très très radical. Parce que c'est le premier comment de l'être en acte. Mais je demeure dans le comment. Donc prétendre que la métaphysique de saint Thomas, c'est la métaphysique du de l'essai, c'est dire que saint Thomas n'a jamais saisi la métaphysique. Il est resté dans l'ordre du comment. Et je crains que ceux qui disent ça n'ont jamais saisi la métaphysique de saint Thomas. Parce qu'ils sont restés dans l'ordre du comment. Ils n'ont pas saisi un principe. Et saint Thomas dit textuellement qu'une science n'existe que quand on a saisi ses principes propres. Quand je reste dans l'ordre du comment, je peux décrire. Vous savez bien ce que dit Auguste Comte. Le positivisme, c'est de saisir le comment et non plus saisir les principes. Donc on dirait que saint Thomas est en face, pratiquement, d'une métaphysique positiviste. Donc il n'a pas pénétré jusqu'au bout. Alors que je crois qu'on doit dire que la théologie de saint Thomas utilise la métaphysique d'Aristote dans ce qu'elle a de plus profond, c'est-à-dire dans la saisie de l'être en acte. Et comme témoignage, c'est quand saint Thomas veut préciser ce que c'est que l'essai, il dit « actus est sancti ». L'acte de ce qui doit être. L'acte de ce qui doit, non pas devenir l'être, mais être, est sandi, gérondif, est sandi. Seconde modalité de l'être, c'est l'heure. Seconde modalité de l'être, en acte, c'est le vrai et le bien au niveau de l'esprit.